Kenan Gürsoy, qui est professeur de philosophie à l'université de Galatasaray et donc ambassadeur plénipotentiaire de Turquie au Vatican près le Saint-Siège. Il est né en 1950 à Ankara. En 1974, il obtient une maîtrise de philosophie à l'université de Paris 4. De 1997 à 1998, il est professeur à la faculté de communication auprès de l'université de Galatasaray. Depuis août 2000, il est doyen de la faculté des sciences et lettres à l'université de Galatasaray. Depuis donc septembre 2009, Kenan Gürsoy a été nommé ambassadeur plénipotentiaire de Turquie au Vatican, près le Saint-Siège. Pour ce qui est de sa bibliographie, qui est assez complète, je vous renvoie sur le site internet. Mais je peux vous dire qu'il a écrit évidemment plusieurs articles, des communications et entretiens sur la pensée existentialiste française, sur la philosophie de la morale et de la religion, notamment sur l'éthique interreligieuse. Il a également participé pendant 4 ans à des émissions hebdomadaires à la télévision sur des conversations théologiques et philosophiques. Donc je vais lui céder la parole pendant une cinquantaine de minutes et puis après quoi vous pourrez lui poser des questions. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur la liste, ma conférence a été annoncée comme les islams de Turquie. Et après, on a fait un petit changement. C'était l'islam et le pluralisme religieux en Turquie. Et ce soir, je crois que je me limiterai plutôt à une certaine considération philosophique provenant d'une des traditions islamiques surtout fréquentes dans notre pays, c'est le soufisme. Comment, à partir du soufisme, nous pouvons avoir une conscience éthique, et comme nous avions pris autrefois, pour la reconsidération, justement, le pluralisme dans le sens de la religion. Hier, j'étais donc à la conférence de notre ami Niloufer Gueulet. Et j'étais vraiment très heureux de voir l'audience qui s'intéresse énormément à ces conférences. Donc je vous remercie, vous les organisateurs, pour l'organisation de ces conférences en France. On sent tellement le besoin que la Turquie doit être encore connue d'une meilleure façon. Mais il est étonnant aussi à voir combien nous sommes méconnus et ignorés, nous les Turcs, notre culture turque, notre islam en Turquie. Pourquoi ? Parce que semble-t-il qu'il y a une crainte, même une peur, que les Turcs se trouvent devant les portes de la communauté européenne. Et certainement, les Français ont beaucoup de raisons pour interroger cet enjeu de la Turquie dans cette aventure de l'Europe. Et nous aussi, nous devons être prêts à vous répondre. Mais toutes ces converses nous aident quand même à prendre de nouveau une certaine conscience de nous-mêmes. Hier, j'ai parlé avec les étudiants turcs, les jeunes turcs, les plus jeunes turcs se trouvant en France, à Paris, parmi vous. Ils étaient tellement contents de cette organisation des conférences, car ils prenaient conscience de ce qu'ils étaient en train d'être pensés ici, et ce que eux-mêmes, comment ils devaient comporter, comment ils devaient se faire des idées, justement, à la fois de l'intelligentsia française, de la France, et à la fois comment aussi se présenter devant l'Europe. Certes, nous ne sommes pas définis en tant qu'identité, les Turcs, sur une géographie avec une histoire très précise, parce que nous avons traversé ce long trajet depuis l'Asie centrale jusqu'à l'Europe, jusqu'aux pays balkaniques, jusqu'à devant Vienne, justement. Et certes, nous avons traversé différents peuples dans cette aventure, différentes religions. Nous avons été voisins des différentes cultures, comme la culture persane, la civilisation persane, arabe, en contact avec de nombreuses cultures de l'Occident aussi, mais nous sommes toujours orientés vers l'Europe, et c'était l'itinéraire principal de notre aventure historique. Permettez-moi quand même de dire que nous avons conçu notre identité non pas comme une nature ou comme une culture précise, mais comme quelque chose à construire, parce que nous avons traversé justement des siècles, des steppes jusqu'aux pays balkaniques. Nous avons formé un peuple culturellement en devenir, si on peut dire, et cet itinéraire culturel vers le meilleur n'a pas dérangé notre être. Donc, c'est plutôt en devenir que nous devons être définis devant l'histoire. Donc, pour parler justement de mon sujet de ce soir, j'ai choisi un certain contexte qui est nos traditions même islamiques, et parmi ces traditions, j'ai choisi le soufisme, qui était si présente dans l'histoire et peut-être même encore présent dans notre littérature, dans nos pensées, dans nos philosophies, de nos traditions, dans les philosophies traditionnelles que nous avons, dans la musique et dans beaucoup d'activités culturelles que nous sommes en train d'appliquer. Mais peut-être nous ignorons que la véritable source était justement le soufisme. Et je vais essayer aussi de créer quelques parallélismes avec cette démocratie que nous avons eue depuis Mustafa Kemal Atatürk, depuis le début du siècle, et même ces nouveautés, la modernisation de la Turquie depuis déjà du début du XIXe siècle, commencé par Selim III et Mahmoud II. Et Mustafa Kemal Atatürk, ayant fait sa grande révolution, nous a aidés justement de saisir au fond de nous-mêmes ce que nous avions en tant qu'une moralité, et ceci n'était pas sans rapport avec le soufisme. Mustafa Kemal lui-même, en faisant ce long trajet dans l'Anatolie depuis 1919, en faisant le congrès de Erzurum, et faisant le congrès de Sivas, en passant justement des différentes villes anatoliennes, il a contacté aussi beaucoup de philosophes, sages, maîtres, soufis, et même à la première assemblée, le premier parlement turc, avait comme second chef de parlement un maître Mevlevit. Nous disons Mevlevit, ce que vous dites les derviches d'honneur actuellement. Et il était vraiment avec lui, d'accord dans ses révolutions, dans son esprit, et il a contribué justement énormément à sa façon d'être, à ses révolutions. On peut citer aussi un autre nom qui s'appelle, enfin, ce nom est très connu en Turquie en tant que penseur, en tant que ministre de l'éducation nationale, c'était Hasan Ali Yücel. Il avait était éduqué aussi quand il était tout jeune dans un couvent mevlevite qui était à l'époque justement ouvert. Donc ce n'est pas sans rapport que la révolution a été faite, sans la considération que la révolution a été faite avec cette prise de conscience soufie. Certes, la prise de conscience démocratique avec Atatürk s'explique certainement en premier lieu par l'influence de la pensée occidentale et par la modernisation. Mais il y a là, en second lieu, une grande importance des caractéristiques historiques et sociologiques de la Turquie qui proviendraient des spécificités d'un certain islam turc qui lui servirait de fondement philosophique ou idéal pour la démocratie. Sous cet angle, on peut parler d'un islam à l'ottomane qui est peu orthodoxe, qui qui a su englober en lui une multiplicité de cultures différentes, en lui purifiant bien sûr des aspects animistes ou autres qui ne correspondaient pas avec celles des principes essentiels de la religion, mais sans briser surtout leur vivacité. Cet islam permettait donc les divergences, non dans l'essentiel certainement, mais dans des nuances pour comprendre ou pour vivre ce domaine extraordinaire de religiosité qui se voulait universel. C'est aussi sous cet aspect que nous pouvons considérer le maintien des bons rapports avec les autres communautés religieuses dans l'Empire ottoman. Mais peut-on trouver justement à l'intérieur de cet islam, à l'intérieur de cette application, une certaine philosophie provenant de la tradition même? Mais cette tradition donc permettait une analyse, une prise de conscience, une évolution dans la pensée. Nous devons essayer de saisir philosophiquement. Et à son tour, cette philosophie, pour ce soir au moins, devrait être dans le domaine de l'éthique, parce que c'est avec l'éthique que nous devons prendre conscience de la tolérance et de la multiplicité que nous devons faire régner dans notre pays de l'autre fois. Dans ce sens, le soufisme va nous servir à expliquer certaines choses. Nous savons que le soufisme a eu un impact exceptionnel dans le monde turc, sur la culture de ses élites intellectuelles et même des masses non éduquées, étant une réflexion non seulement mystique mais aussi philosophique, politique et sociale, il se manifeste en même temps comme une éthique toujours en rapport avec la société islamique. Je parle du cas de la Turquie. Sans affirmer un profit pour la solitude, le soufi se sentait poussé à vivre en pleine société et à prendre part à ses activités, car il voulait remplir en quelque sorte un rôle de médecin pour guérir les plaies de la communauté, les plaies spirituelles et morales et même, pourquoi pas, sociale. Donc, considérant le soufisme, nous allons peut-être saisir quel était ce fond. Mais avant de commencer, j'aimerais bien faire la mienne ces idées de Emmanuel Mounier, qui est un personnaliste français et qui disait « L'homme, tout en prenant conscience de soi et tout en se réalisant à travers la communication avec autrui, doit s'engager dans la réalisation d'une humanité et d'un ordre social où s'épanouiront les virtualités porteuses de valeurs. Quand j'étais enfant, nous étions bien sûr sous l'influence de cette grande révolution kémaliste. Atatürk était ce héros de la modernisation, de la démocratie, de la République. Il l'est pour toujours d'ailleurs. Mais il nous avait montré comme cible d'attraper la civilisation contemporaine, la civilisation moderne. Semblait-il à l'époque qu'il n'y avait qu'une seule civilisation, représentée par l'Europe, par l'Occident. Mais maintenant, surtout quand j'ai regardé et j'ai assisté à la conférence d'hier soir, et aussi avant, bien sûr, quand j'ai vu les réactions possibles contre la venue de la Turquie dans la communauté européenne, nous avons compris, j'ai compris, la conscience intellectuelle turque a compris que nous sommes d'une civilisation différente. Alors pourquoi on nous avait tellement forcé à attraper cette grande civilisation unique, alors que maintenant, presque 90 ans plus tard, on nous parle des civilisations. Et cela nous pousse bien sûr à repenser, à prendre conscience, à reprendre conscience de nous-mêmes en tant qu'une civilisation. Et la notion de la civilisation intègre, est intégrée maintenant dans notre pensée, parce que nous avons vu la réaction des Européennes qui nous prenaient pour des gens autres, pour des gens d'une autre civilisation. Je ne sais pas s'il s'agit là d'une contradiction ou d'une synthèse à faire. Devons parler d'abord des civilisations pour attraper la civilisation, mais si la seconde est vraie, nous devons faire des efforts, vous et nous, pour en faire une synthèse. Et pour cela, nous sommes bien obligés de faire des rencontres entre les deux civilisations telles que vous êtes et telles que nous sommes. Donc, nous sommes des gens de dialogue. Nous devons être des gens de dialogue. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi justement ce thème de la tolérance. Comment verrait-on, nous pouvons voir à l'intérieur de nos propres traditions la considération de l'autre. Partant de quelles idées, partant de quelles notions nous pouvons arriver justement à reconsidérer, à reconnaître cet autre. Et s'il s'agirait un jour d'être ensemble, ça doit être le même et l'autre sont ensemble. Donc il faut que nous fassions un effort dans notre même, dans ce que nous sommes, dans nos traditions mêmes, pour la considération de l'autre, avec quelles idées, avec quelles valeurs nous devons le faire. Ceci dit, pour continuer à mes propos de tout à l'heure, et quand on nous a dit qu'il n'y avait qu'une seule civilisation, et quand on nous a montré que c'était la civilisation occidentale, il y avait quand même une certaine tragédie par rapport à la conscience turque. Parce que nous prenions conscience de nous-mêmes à partir de l'Occident, alors que nous étions l'autre de l'Occident, l'autre de l'Europe. Donc, par conséquent, nous étions l'autre du même sans être le même. Non, nous ne pouvons pas être réduits au même de l'autre. Il faut que les deux à la fois se retrouvent dans un même concept, dans une même entité, dans un même devenir, le même et l'autre devraient être ensemble. Peut-être ce refus, enfin, je dis refus, cette crainte de la Turquie en nous réduisant à une autre civilisation, nous donnera justement cette possibilité de reprendre conscience de notre même et notre autre, mais le même et l'autre à la fois. Il s'agit certainement d'un commentaire de la tolérance. Une conscience éthique au sein même d'une tradition religieuse telle que l'islam. Il doit donc opérer à l'intérieur d'une même foi, mais s'ouvrant vers l'autre dans une perspective qui pose, comme dirait M. Ricoeur, soi-même comme un autre, ou retrouvant autrui au sein même de son propre soi, autrement dit, se considérant dans son sens universel. Il faut alors découvrir dans le cadre de sa propre religion, de notre propre religion qui est l'islam, le véritable message éthique que cette tradition nous enseigne. Mais ceci n'est possible, puisque nous sommes à l'intérieur d'une religion, n'est possible à son tour que par la conscience de l'expérience religieuse à laquelle cette religion nous invite. Si nous nous proposons de découvrir le fondement éthique de notre croyance, c'est donc à la philosophie de le révéler. Cette dernière va nous permettre aussi une ampleur générale de notre point de vue qui suppose à son tour un contact avec l'autre. Bien sûr, quand il s'agit d'une religion, il y a un danger, un risque. Car une religion risque de nous interdire tout contact avec d'autres religions.
et toute compréhension des autres expériences religieuses. N'est-il pas là une première raison qu'une croyance devienne une idéologie, contribuant à créer des conflits ? D'où la politisation de la religion qui considère la prophétie, concept si cher pour l'islam, comme une entreprise de domination. Pour faire face à ce malentendu qui a causé tant de malheurs, la prise de conscience éthique nous permettra donc nous de saisir notre propre expérience religieuse dans ce qui est à l'échelle universelle, dans son contexte universel, et dans une compréhension mutuelle avec les expériences des autres. Cela va nous amener à un approfondissement de nous-mêmes, d'ailleurs. Il s'agit d'une nécessité presque existentielle qu'insiste toute expérience éthique dans son essence et dans sa totalité, puisque ces dernières supposent que l'autre existe. Inutile de dire aujourd'hui que le prochain auquel nous devons reconnaissance et amour ne pourrait plus être considéré dans les limites d'une même communauté religieuse unitaire. C'est là une des épreuves cruciales de la conscience éthico-religieuse de notre siècle. Or, cette conscience éthique qui vise une telle compréhension universelle en matière de religion n'est rien d'autre donc que l'acceptation de l'existence d'autres expériences religieuses tout en dépendant des traditions religieuses différentes. Donc l'universalisation devient ici la tolérance envers les autres. Bon, c'est ma question principale qui va se poser maintenant. Y a-t-il donc une possibilité dans l'islam pour telle vision qui nous amènerait à la tolérance d'abord et au contact après pour être avec les autres religions? Peut-on admettre donc une différence, l'admission de la différence au sein même de l'islam? Pour cela, je dois faire recours justement à quelques versets coraniques, si vous me permettez, si vous ne dites pas que je suis un propagandiste. Et, par exemple, le verset coranique, sourate 5 et verset 105, qui nous dit « Oh, vous qui croyez, vous êtes responsable de vous-même. Celui qui est égaré ne vous nuira pas si vous êtes bien dirigé. » Donc, il s'agit de la personnalité de la personne, de cette personne qui croit. Un autre verset coranique, 17:15, qui nous dit « Nul ne porte le fardeau de l'autre. » Alors, un autre verset, 2:256, « Pas de contrainte en religion. » On ne peut donc forcer les autres à croire, à enlever le droit à la différence religieuse. Pourtant, vous allez me dire, et je dirai aussi, le critère fondamental de l'islam est l'unité. On peut dire que l'islam est la religion de l'unité, de tawhid, si je dis en turc et en arabe, bien sûr, car elle se soucie d'une harmonie spirituelle et culturelle. Mais cette unité ne doit enlever nullement la multiplicité qui lui est sous-jacente. Ne doit, si ce fut, c'est donc l'histoire. Car il s'agit d'une unité qui trouve son essence dans l'être même d'une transcendance, qui est Dieu. Celle-ci devant englober dans son idée même le même et l'autre. C'est de là qu'on part. Nous devons affirmer donc que cette notion de l'unité s'impose ici, non pas pour refuser la multiplicité, mais pour la dépasser vers sa réalité même. Le dépassement s'effectuant en vue d'un principe plus universel et d'une vérité beaucoup plus essentielle. Je parle en théologue. Ce principe évoque d'une part Dieu dans ce qu'il est l'être nécessaire, dont dépend entièrement toute chose du point de vue de l'existence, et d'autre part l'unicité de tout ce qui a été créé, car c'est en elle que l'univers apparaît divinement. L'harmonie fondée sur la doctrine de l'unité de l'islam sont très flagrantes surtout dans ce domaine extraordinaire de culture qu'est le soufisme, où une multiplicité de traditions et de coutumes spirituelles se sont retrouvées dans une continuité au sein même d'un universalisme assuré par cette religion de l'unité. D'où nous pouvons tirer l'idée de la tolérance. Et cette unité, qui est d'une importance capitale, donne aussi une certaine considération au statut des autres religions par rapport à l'islam. C'est là précisément l'idée de la tolérance, j'ai dit, car dans l'islam, il n'y a pas de distinction en ce qui concerne l'identité purement spirituelle des envoyés de Dieu. Et je sais que la prophétie et la notion de prophète est beaucoup plus important par rapport au christianisme dans l'islam. Et envoyé de Dieu, c'est autour de lui qu'une communauté se forme. Donc il n'y a pas de différence dans le domaine spirituel entre les différents envoyés de Dieu. Il y a une unité fondamentale de leur révélation. Puisqu'il s'agit d'une unité, ils affirment tous l'un. Tous les envoyés, tous les prophètes, que nous connaissons ou non leur nom, peuvent être donc considérés comme appartenant à une unité essentielle. On pourrait même dire qu'au premier moment de l'institution de l'islam, les polythéistes avaient quasiment découvert dans la foi du prophète quelques fascinations qui intégraient leur divinité tribale à l'universel. Mais le Coran insiste surtout, pas uniquement, mais il insiste surtout l'authenticité des prophètes et de la Bible avec une volonté de retrouver la foi primordiale qui était celle d'Abraham. D'où le terme dans l'islam, des gens du livre. Si nous avons des amis avec nous ce soir, qu'ils me permettent la prononciation, parce que c'est à la turque, Ehl-i Kitab, gens du livre, en parlant des juifs, des chrétiens, avec qui le Coran nous a conseillé de ne disputer que d'une meilleure manière, dans le verset 16-125. Mais je vais citer quand même deux versets encore. Dites, nous croyons en ce que l'on a fait descendre vers vous et en ce que l'on a fait descendre vers nous, vers vous et vers nous. Votre divinité et notre divinité sont une et nous lui sommes soumis. C'est 29-46. Et un autre verset, c'est le 2-136. Dites, nous croyons en Dieu, à ce qui a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été en Moïse et à Jésus, à ce qui a été donné aux prophètes. Donc le nombre est infini, ou alors le nombre est indéfini. Ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur, nous n'avons de préférence pour aucun d'entre eux. Bien sûr, il s'agit là d'une considération doctrinale qui est base de la tolérance envers les autres religions. Mais ceci n'est pas suffisant. Alors, c'est le soufi qui arrive pour l'intériorisation de ce principe de la tolérance qui se révèle comme une attitude individuelle, subjective, et qui ne se limite pas au niveau doctrinal pour devenir un état conscient vécu en tant qu'une expérience religieuse. C'est avec le soufisme, il s'agit de demander qu'en est-il de l'homme existentiel ? C'est là, justement, le propre du soufisme. En partant de l'aspect général de la doctrine, nous arrivons au plan existentiel ou individuel. Et le soufi est le prototype même de ce croyant qui essaie de dépasser le seul conformisme défini par le simple sentiment de devoir. Il essaie de dépasser ça individuellement dans ses profondeurs, sachant que les dogmes ne jouent que le rôle des aspects extérieurs, le rôle d'une écorce, tend à un approfondissement de son propre être qui est le lieu des dévoilements du sens profond de la révélation. En quelque sorte, il cherche un Coran vécu dans le profond de son être, tout en considérant les formes extérieures comme des moyens de réalisation et des points d'appui, pourquoi pas des symboles. Il reste à dire que le soufi ne se limite pas à une expérience mystique, mais vise à une perfection éthique, morale, aussi bien dans sa vie individuelle que sociale. Et il aspire aussi, éthiquement parlant et existentiellement parlant, à réaliser l'homme parfait au fond de lui-même, dans son être, pour devenir l'homme universel. Je sais qu'il y a des ambiguïtés sur le mot « universalité ». Ce n'est pas dans le sens kantien du terme que je parle. Quand je dis universel, c'est la multiplicité englobant l'universalité, englobant la multiplicité. Donc, il s'agit ici, au fond de lui-même, d'une communication avec l'autre, une rencontre avec l'autre. Il n'y aura pas de dignité possible sans la rencontre intersubjective avec les fidèles appartenant à des religions différentes. Peut-être s'agirait-il d'une rencontre non plus entre les religions, mais des croyants et les religieux. C'est la raison pour laquelle l'affirmation d'un principe de l'unité pour le soufi n'est pas celle du sens commun qui confirme dans son aspect extérieur cette affirmation et suivant au pied de la lettre les commandements prescrits. Non pas celle des gens de la science, c'est-à-dire des théologiens, dont les affirmations se fondent essentiellement sur des démonstrations, mais prises dans toute sa spiritualité en tant qu'une réalisation personnelle. L'idée de l'unité chez les soufis nous amène à créer un parallélisme avec la connaissance du prophète, dirait notre professeur français Roger Deladrière, en se basant sur la théorie d'Ibn Arabi. Il disait ça. La connaissance du prophète était donc totalement parfaite. La connaissance du multiple séparé de l'un, la connaissance de l'un séparé du multiple, et la connaissance simultanée et englobante de l'un et du multiple. Excusez-moi de ces considérations philosophiques. Dans le soufisme, aussi bien dans l'islam en général, la conception de l'homme occupe la place plus importante, car toute création prend sa valeur par rapport à lui. Il est souvent représenté dans le soufisme comme le résumé, le couronnement de tout ce qui procède à lui dans la création. Il est l'unité de tout ce qui existe. Il s'agit ici d'une découverte dans sa propre expérience personnelle de l'homme, d'une universalité, d'une rencontre avec les autres, qui provient du fait que cette expérience n'est qu'une recherche d'aboutissement à la véritable dignité humaine. C'est donc une rencontre avec les autres, c'est la tolérance, mais une ouverture nécessaire, existentielle, vécue sur le plan éthique. L'autre ou autrui m'est donc nécessaire pour que je reconnaisse l'universalité dans mon expérience et pour que je l'identifie comme la mienne, il faut que cette pluralité existe. L'important peut-être pour un soufi, c'est de retrouver l'essentiel derrière les apparences, l'un derrière le multiple, et le même par l'intermédiaire de son autre. Il y a quelque chose à apprendre de ces soufis pour aujourd'hui, mais ce n'est surtout pas rester prisonnier ni du multiple, ni non plus de la couleur, mais de dépasser ce stade pour y redécouvrir la vérité essentielle. Là, je viens à un philosophe, à un penseur, à un soufi de XIIIe siècle, dont nous avons fêté il y a 2 ans 800e anniversaire avec UNESCO. Et je viens de fêter à Konya, j'étais un des conférenciers le 30 septembre, 802e anniversaire, 802 années de sa naissance. Mevlana Celaleddin Rumi, qui était le fondateur des derviches tourneurs, de l'ordre des derviches tourneurs, il nous apprenait que la couleur représentait l'existence apparente, le phénomène par opposition à l'existence absolue et inconditionnée. C'est lui qui parle. Il y a une voie qui va de la multiplicité de couleurs, disait, à l'absence de toute couleur, mais de la multiplicité à l'absence de toute couleur. La couleur est semblable au nuage et l'absence de couleur est une lune. Quelque lumière ou splendeur que vous aperceviez dans les nuages, sachez qu'elles proviennent des étoiles, de la lune et du soleil. Et il disait aussi cette phrase extraordinaire qui nous étonne d'ailleurs. Il disait, en tant qu'un religieux même, depuis que l'absence de la couleur, c'est-à-dire la pure unité, est devenue captive de la couleur, le monde phénoménal, un disciple de Moïse est entré en conflit avec un autre disciple de Moïse. C'est le monothéisme qui est cité là. Et encore étonnant, quand vous parvenez à l'absence de couleur que vous possédiez à l'origine, Moïse et Pharaon sont en paix l'un avec l'autre. L'aspiration à l'absence de couleurs ne doit pas être considérée dans le soufisme comme un refus des couleurs qui sont en même temps des particularités phénoménales, mais comme un perfectionnement de notre intérieur qui nous ouvre vers la compréhension dans ces particularités tout en les rendant transparentes à l'absolu. Donc, dans la couleur même, en la rendant transparente, il faut saisir l'absolu. On peut très bien appliquer ceci à la pluralité des conscients, des croyances, qui proviennent donc d'une origine divinement unique, comme toute créature est la manifestation de Dieu, et Dieu lui-même est l'essence de la créature, il faut considérer les créatures comme les reflets des attributs divins. C'est là, chez les soufis, une autre base à la tolérance pour les autres religions, car, d'une part, qu'il y ait une diversité apparente, il y a une unité dans leur origine, et d'autre part, quoi qu'ils adorent, les hommes ne peuvent adorer que Dieu, puisque celui-ci est la source des manifestations de toutes les créatures. Chaque religion, d'après eux, contient une part de vérité, d'où l'attitude envers les minorités religieuses, en tant que reconnaissance et compréhension de leur culte et l'aide fraternelle qu'ils sont souvent apportés. Se sont apportés, et même l'explication de certaines transmissions interculturelles. Je me réfère au Coran qui nous disait « Nous avons donné à chacun d'entre eux une règle et une loi. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les uns des autres dans des bonnes actions. Votre tour à tous se fera vers Dieu. Il vous éclairera alors au sujet de vos différends. » Il s'agit là peut-être de la nécessité de la différence. L'important, c'est de saisir la lumière de cette unicité harmonieuse d'après les soufis. Je voudrais citer les paroles d'un soufi turc du XXe siècle qui est mort en 1905, qui disait à un de ses disciples, « Pourquoi tu es si touché ? Qui est un chrétien ? Le considères-tu comme autre que toi-même ? Dieu n'est pas seulement le Seigneur des musulmans, mais de l'ensemble de l'univers. Toi, tu dois avoir la foi en Jésus et en Moïse. Sinon, tu ne peux pas être considéré comme un musulman. Ne prends aucune chose en dehors de la vérité divine. Voilà le mystère de l'unicité. Deux points. La multiplicité dans l'un et l'un dans la multiplicité. Voilà. Étant des intellectuels musulmans, turcs, il nous reste encore aujourd'hui de nous rappeler de ce motif humaniste si important de notre propre culture et de nous en servir peut-être pour résoudre tant de problèmes causés par le fanatisme intolérant d'une part, mais l'uniformisation détruisante de l'autre. Car c'était là une certaine synthèse éthique de notre propre univers culturel, je veux dire de turc, qui englobait à la fois l'un et le multiple, le même et l'autre. N'était-il pas dit aussi dans le Coran, et parmi ces signes sont la création des cieux et de la terre, et de votre diversité, et votre diversité de langue et de couleur. En vérité, là, il y a des signes pour tous les hommes. Peut-être, je vais terminer bientôt, peut-être l'histoire et la pensée réflexive de la Turquie pourrait servir comme une des expériences fondatrices, pourquoi pas pour l'Europe. L'épreuve de la différence, la Turquie l'a faite depuis 2 siècles. Elle regardait l'Occident, mais elle n'était pas occidentale. À la fin du XVIIIe siècle, l'Empire ottoman a subi des défaites, a compris qu'il avait des faiblesses, que les réformes étaient nécessaires dans ses institutions et dans sa façon de vivre. Ces réformes ont représenté un bouleversement dans la conscience. Depuis le XIXe siècle, la Turquie vit une déchirure entre l'Occident et l'Orient. C'est une crise pour nous. C'est une crise dans la conscience. Aujourd'hui, il est possible d'en tirer des leçons pour le futur et pour l'Occident, pourquoi pas. L'Europe peut en effet comprendre, grâce à l'exemple turc, ce que signifie la rencontre entre l'Orient et l'Occident. Le va-et-vient permanent entre l'Orient et l'Occident, nous avons vécu avec une grande souffrance psychologique, existentielle, sociale et individuelle. C'était donc vécu d'une manière existentielle. Ceci est omniprésent dans la littérature et la poésie turque. Il marque même la conscience turque d'aujourd'hui. Il est certainement indispensable de faire des synthèses, de rencontres de civilisations pour saisir dans les langues, dans les littératures, quelque chose d'universel qui pourrait nous servir de la rencontre. Cela n'est possible par cette voie qui est la rencontre, justement. L'Europe, qui donna tant d'importance à la culture, a les moyens d'assumer cette différence et cette rencontre avec l'Orient et l'Occident. Donc, je pense que le dialogue culturel auquel nous aspirons, lui, est l'essentiel sur Terre. Je parle en philosophe. Les hommes politiques, les idéologues, les historiens ont besoin de la philosophie. Quand on fait de la rencontre du même et de l'autre, on perd justement ces conditionnements idéologiques. Il s'agit de construire un discours, donc faire de la philosophie, sur l'autre. L'autre est là, il a besoin d'être reconnu comme conscience. Nous sommes là, nous avons besoin d'être reconnus comme conscience. comme culture et comme histoire. Ce n'est pas une question d'économie ni de géopolitique, ils existent bien sûr, mais être reconnu. Pour cela, il faut être reconnu comme égal, et la reconnaissance est essentielle. Pour terminer, il faut dire d'autre part que la laïcité met elle aussi en jeu le problème du même et de l'autre, du stable et du variable, au niveau de l'individu. L'État et la religion sont des choses différentes, et la Turquie doit rester absolument laïque. Mais cela ne doit pas empêcher les Turcs de se saisir comme musulmans s'ils se considèrent ainsi. Certes, la Turquie a besoin d'une expérience telle que celle de la France du début de 1900, la séparation de l'Église et de l'État, de la religion et de l'État, doit se faire correctement en Turquie aussi. C'est là avec précaution, c'est-à-dire avec précaution il faut le faire, car à force d'être trop éloigné de la religion, l'État, qui fut le cas pour la Turquie, risque de devenir une nouvelle religion, d'être tenté par l'autoritarisme et le totalitarisme. Quand la religion devient une idéologie et perd sa transcendance, l'État risque de devenir totalitaire. Avec le modernisme turc, les Turcs ont déjà souffert de ces dérives. La laïcité doit donc être une reconnaissance de la religion, à condition que celle-ci prenne conscience d'elle-même sous une forme éthique et avec ses valeurs universelles. Merci.
Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. Alors, je vous demanderai de bien lever la main. Voilà. Pour qu'on vous voit. À gauche, mademoiselle.
Bonsoir, monsieur. J'aurais voulu savoir s'il existait une interaction.
Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît,
oui, pour pardon. Qu'on vous voit. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'aurais voulu savoir s'il y avait une interaction entre le soufisme et l'alévisme. Merci.
Et même, je vais aller plus loin, l'alévisme aussi, justement, est cette partie de notre religion où le soufisme est plus flagrant par rapport aux autres. Mais est-ce qu'ils se considèrent ainsi? Ça, c'est une autre question. Mais l'alévisme, je pense qu'il faut bien l'étudier dans le sens, dans le contexte même du soufisme, dans l'histoire du soufisme. Sans le réduisant à être un tariqa, il est très influencé par le soufisme. D'ailleurs, le bektachisme, qui est un tariqa, qui est une tradition alévite, le montre suffisamment bien.
Alors, une question sur la gauche, la droite, pardon. Monsieur.
Merci. Oui, la Turquie est membre de l'Organisation des États islamiques et à ce titre, elle a souscrit à la Convention des droits de l'homme islamique. Cette Convention des droits de l'homme énumère un certain nombre de libertés, pratiquement les mêmes que celles que nous connaissons, mais le dernier article stipule que l'application de ces droits doit se faire en fonction de la charia. La charia, c'est deux parties, le Coran et la tradition. Dans le Coran, il y a effectivement les gentils versets que vous avez signalés, et ils sont effectivement magnifiques. Point de contrainte en matière de religion, nous sommes tout à fait d'accord. Mais comme vous le savez, il y a d'autres versets. Et le problème, il est avec les autres versets, notamment les versets de la sourate numéro 9, dites le repentir, où vous trouvez des versets qui sont carrément hostiles, et violemment hostiles, aux autres religions dites du livre, les juifs, les chrétiens et les autres polythéistes, puisque pour un musulman, le christianisme est un polythéisme. Donc comment voyez-vous la synthèse que vous avez évoquée tout à l'heure entre les droits de l'homme islamiques et les droits de l'homme et la déclaration universelle des droits de l'homme? Et comme vous avez évoqué votre fonction au Saint-Siège, ou Madame a évoqué votre fonction au Saint-Siège, qui est tout à fait essentielle, notamment pour le dialogue entre les religions, je voulais vous poser une autre question plus précise. De quelle liberté jouissent les religions chrétiennes en Turquie, notamment pour ce qui est de faire connaître leur religion chrétienne? Ce n'est pas du prosélytisme, parce que je sais que le prosélytisme est banni dans l'islam, simplement pour faire connaître leur religion, pour l'enseigner, créer des séminaires, le cas échéant. Voilà, ce sont mes deux questions.
Oui, tout d'abord, je dois vous répondre non pas en tant que politologue, historien, anthropologue ou sociologue, mais en tant que philosophe. Il faut que nous fassions des commentaires et des études très profondes dans le contexte même de la philosophie sur notre propre texte sacré. Et je crois que cela va nous ouvrir des voies extraordinaires, pas seulement pour se renouveler dans ce qui est dans ses propres croyances, mais pour donner quelque chose aussi qui pourrait aider à la réflexion générale sur la religion, sur des religions, sur la divinité, sur la religiosité, sur l'expérience religieuse. Il est sûr que nous avons des problèmes à cet égard. Nous n'avons pas fait des exégèses, nous n'avons pas fait des commentaires, surtout des commentaires appartenant à notre siècle, mêlés de la philosophie générale, universelle, mêlés de la philosophie occidentale et tout ça. Mais actuellement en Turquie, il y a une grande attention justement à cette conscience de son propre passé, de ses propres sources, et aussi une considération de ses sources religieuses. Et, par exemple, Madame a dit j'ai fait un programme à la télévision dans cette émission, nous avons discuté depuis 4 ans. Nous avons discuté parce que l'émission est terminée la semaine dernière. Les théologues et les philosophes sur des sujets très intéressants, sur des concepts justement. Et parmi ces sujets, il y avait un thème très intéressant qui a duré 3 ou 4 semaines où nous avons fait notre erreur. Bien sûr que nous avons fait des erreurs dans l'histoire. Et depuis le XVIe siècle, nous sommes aussi dans la chute par rapport à la réflexion philosophique, par rapport aux sciences, il faut bien le reconnaître. Et en ce qui concerne les droits de l'homme, je pense que les droits de l'homme sont les mêmes universellement dans le monde entier. Peut-être qu'il faut faire un nouveau commentaire de Sharia en fonction de ces droits de l'homme qui sont universels. Ça va nous permettre aussi de reconsidérer l'universalité de notre propre religion. Et pour ce qui est de la tolérance envers les autres religions existantes en Turquie, et comme vous savez certainement, depuis Lausanne, et c'est justement la grande conférence qui a fondé en quelque sorte juridiquement et politiquement notre État. Et on a reconnu l'existence des Juifs, des Arméniens et des Orthodoxes, parce qu'ils étaient déjà existants au sein de la communauté, de la grande communauté ottomane. Nous les avons appelés des millettes pendant l'Empire ottoman, et ils ont eu ce droit justement d'avoir leur fondation, leur enseignement. Est-ce que nous n'avons pas des problèmes à cet égard? Bien sûr, vous les connaissez tous. Mais actuellement, sans être membre justement de cette organisation, mais je vais parler de l'État et du gouvernement, et le gouvernement fait tout son possible pour améliorer les conditions. Mais Lausanne, si cette conférence est bien interprétée, je crois que nous allons résoudre tous les problèmes dans des temps qui arrivent. Pardon. J'ai laissé une question sans réponse. Non. Bon.
Monsieur Derrière.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez parlé donc de la tradition démocratique en Turquie. Et étant d'origine arménienne, il m'est difficile de vous croire du fait que depuis plus de 90 ans, le génocide arménien n'a pas été reconnu et qu'il y a une organisation négationniste d'État avec ses budgets, ses ministères, qui justement essaie de construire une non-existence du génocide arménien et que aussi les églises arméniennes en Arménie, dans historique, occidentale, j'allais dire, historique, l'État est très délabré des églises arméniennes, qu'ils ont servi pendant des années comme exercice de tir de l'armée turque. Et comment vous croire, lorsque le nouveau régime a été établi, que les anciens criminels jeunes turcs ont eu des fonctions importantes dans le nouveau gouvernement ? Des fonctions importantes, comme si l'Allemagne, aujourd'hui, qui aurait été nationaliste, aurait donné des fonctions importantes aux anciens criminels nazis. Comment vous croire, cher monsieur, avec les belles phrases philosophiques que vous avez dites, comment vous croire, peut-être vous, peut-être, mais j'ai des réticences pour le gouvernement actuel. Merci.
Oui, mais je ne peux pas parler au nom du gouvernement comme vous allez bien comprendre. C'est une question à eux. Mais considérons quand même les bonnes évolutions qui se réalisent actuellement. Et que chaque fois que je viens en France, chaque fois que je donne une conférence justement parlant justement de cela, sur la philosophie et tout ça, je ne suis qu'un philosophe, en plus qu'un pauvre philosophe, donc qui n'a pas d'autre possibilité de réflexion par rapport à la philosophie. On me demande ces questions, je crois que cette question est posée aussi à tous les conférenciers ici. Et nous sommes toujours considérés comme, pas seulement comme des Turcs, mais comme des têtes de Turcs à cet égard. Pourquoi vous ne considérez pas les belles choses qui se réalisent? J'espère que tout va s'améliorer dans le meilleur. Et aussi, j'aimerais que cette conscience que nous avons, que nous aurons, que vous avez pour les Arméniennes, vous aurez aussi pour les Turcs dans l'histoire, quand ils ont été chassés des pays balkaniques, ils ont souffert. Ils ont souffert aussi en 1920, quand l'armée russe est entrée avec, malheureusement, les officiers. Je ne veux pas continuer sur le sujet. Vous avez déjà posé votre question et je vous ai répondu. Merci.
On va prendre une question en haut.
Bonsoir. Je n'ai aucun doute sur votre probité intellectuelle. Je n'ai aucun doute sur tout ce que vous avez développé comme point de vue. Vous vous démarquez du système politique actuel turc, mais quand même, vous connaissez et vous êtes sûr, autant que moi, l'importance des médias au jour d'aujourd'hui, la télévision, l'Internet, et son impact sur les populations. Au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer, malgré tout le respect que l'islam a des religions du livre, des chrétiens, des juifs, qu'il y a une série télévisée aujourd'hui qui a cours en Turquie, qui est proprement antisémite. Je n'ai aucun doute sur le fait que, de ce que vous pensez à vous, voyez, je ne vous connais pas, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Mais quand même, le propre d'un intellectuel, c'est de s'engager et de dénoncer fortement ce type de dérive qui a lieu parce qu'elle est porteuse de violence, pas seulement contre les juifs d'ailleurs, contre toutes les minorités qui peuvent aussi s'exprimer. Voilà, je voudrais que vous engagiez sur ça, et c'est quelque chose qui est très d'actualité aujourd'hui.
Oui.
Je suis sûr que vous êtes au courant.
Mais d'une manière générale, considérant la question sur les juifs, est-ce que vous pensez que les juifs en Turquie, dans les frontières de l'Empire ottoman, ont si souffert ? Pas du tout. C'est donc le propre, je crois qu'il faut considérer par rapport à notre histoire depuis le XVe siècle, que la communauté juive est tellement bien accueillie et tellement bien gardée par rapport aux autres pays du monde d'ailleurs. Ça, il n'y a pas de doute à cet égard, n'est-ce pas? Et l'acceptance aussi, bien sûr, s'il y a des choses qui ne vont pas, on doit faire
l'État doit faire, nous pouvons faire en tant qu'intellectuels, tout ce qui est nécessaire.
On va prendre encore deux questions pour poursuivre le débat en dehors de la salle. Madame d'abord et monsieur après.
Bonsoir, je voudrais déjà vous remercier pour votre discours réconfortant. Ça fait chaud au cœur. J'ai trois petites questions. Donc, une certaine partie de la population turque qui est très admirative de l'Occident n'a-t-elle pas oublié son identité et son passé historique? Deuxième question.
Je n'ai pas compris très bien cette question. N'a-t-elle...
Une certaine partie de la population turque, surtout les intellectuels...
Plus occidentalisés par rapport aux autres parties de la population.
Qui était très admirative de l'Europe et de l'Occident... Cette partie de la population n'a-t-elle pas oublié son passé historique et son identité? La deuxième question, le soufisme, j'apprécie beaucoup, je suis en train de lire le livre de Elif Shafak, mais malheureusement la grande masse de la population turque n'a pas accès à ce savoir et l'interprétation de la religion par la masse n'est pas du tout en phase avec le soufisme. Deuxième question. Et la troisième question, qui est un peu une question légère, Mevlana est-il turc ou perse? C'est parce qu'on se dispute tout le temps.
Mevlana n'était ni perse ni turc, voilà. Il était universel, il était pour tout le monde, à la fois pour les Français et pour le monde entier. Mais l'ordre mevlevite et la tradition mevlevite qui a fait suite justement à ce grand philosophe était quand même de caractère turc. La poésie est partagée avec les persans, c'est d'ailleurs en persan qu'il a dit ses poèmes, qu'il a écrit, mais aussi la culture mevlevite dans la musique, dans la poésie, dans les commentaires et tout ça, c'était bien à la turque. C'était même... Et dans les frontières, dans les anciennes frontières de l'Empire ottoman, est-ce que la majorité est au courant de cette attitude soufie? Et je pense que de plus en plus, le livre que vous êtes en train de lire d'Elif Shafak en fait la preuve, parce que je crois qu'actuellement, depuis 6 ou 8 mois, et en tant que roman, il est le plus lu de la Turquie, un des plus lus de la Turquie. Est-ce que les intellectuels occidentalisés, ils ont oublié la Turquie? Ils n'ont pas oublié, bien sûr. Il faut considérer une chose, il ne faut pas accuser les gens. Mais nous avons fait une grande révolution. C'était vraiment un tournant de l'histoire pour nous, c'était très important. Et nous avons fait un grand pas dans la modernisation. Nous avons commencé à le faire depuis déjà le 19e siècle. Et nous étions bien obligés de donner un but différent par rapport à la tradition qui était déjà très dégénérée. Donc, il faut bien comprendre qu'au début de la révolution kémaliste, nous avons eu quelques indifférences par rapport à nos propres traditions, à nos propres philosophies. C'est maintenant en nous. Je suis né en 1950. C'est ma génération, je crois, qui a commencé à s'occuper de ce genre de choses. Nous essayons de saisir la musique, notre musique traditionnelle que nous appelons la musique classique aussi, notre poésie de divan, de la littérature ancienne, des lettres classiques de la Turquie. Nous essayons de redécouvrir la philosophie islamique qui a fait suite justement à la philosophie aristotélicienne, aux grandes traditions de théologie. Tout cela sont très chers pour nous. Mais il faut quand même comprendre qu'au début de notre révolution, ils avaient raison, c'était bien légitime aussi, de se tourner un petit peu vers l'Occident. Et ils avaient raison. Ils avaient raison.
Pardon. Non, monsieur, dernière question.
Pour moi, ça sera une question très courte. J'ai beaucoup apprécié votre conférence. En fin de compte, c'est du bon sens que vous dites. L'ouverture vers l'autre, la tolérance, c'est vraiment du bon sens. La question que je me pose, quand on parle de pluralisme, on a l'air d'oublier, pas seulement dans le cas de la Turquie, on a l'air d'oublier le courant athéiste.
C'est absolu.
Comme si l'athéisme n'existait pas, comme s'il y avait des gens qui n'étaient pas athéistes. Et la question que je vous pose, c'est y a-t-il une sorte de dialogue ou de possibilité de rencontre entre votre courant et un courant athéiste?
Et, je ne représente pas un courant, mais je fais une référence à une tradition qui était inhérente à notre propre culture. Et je crois que ceci est possible aussi dans le sens même que l'athéisme devient une église. Ceci n'est possible que si l'athéisme est une église. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des relations. Mais est-ce qu'un soufi, posons la question à un soufi, est-ce qu'un soufi rejetterait un athée? Et donc tout de suite, Mevlana Celaleddin Rumi, il nous dit, pour lui aussi, viens, viens. Et en ajoutant, notre couvent n'est pas un couvent de désespoir. Viens, que nous soyons tous ensemble. Si nous considérons Mevlana Celaleddin Rumi, mais si nous considérons aussi notre fameux poète de XIIIe siècle encore, Yunus Emre, et nous avons des traductions maintenant en français, il dit « Il n'est pas de bonne religion, de bonne croyance, s'il ne considère pas 72 nations avec un seul œil. » Donc, regardez avec l'unité, englobant cette unité, les autres aussi.
Eh bien, Monsieur Gerzog, merci beaucoup.